6.
C'est vraiment l'endroit le plus délicieux du monde, du moins depuis la chute du monde de l'intérieur, fit remarquer Ted. N'est-ce pas?
Ravissant en effet, acquiesça Heidi. Il avait au moins un millier de questions. Et supposait que Jake et Susanna en avaient au moins autant de leur côté, mais ce n'était pas le moment de les poser. Quoi qu'il en soit, il continua à fixer cette merveilleuse petite oasis d'une cinquantaine d'hectares au-dessous d'eux. Le seul petit coin de verdure ensoleillé de toute une foudre. Le seul coin agréable. Et pourquoi pas? Rien que le meilleur pour nos potes les briseurs. Et malgré lui, une question lui échappa pourtant.
Ted, pourquoi le roi cramoisi veut-il mettre la tour par terre? Est-ce que vous le savez?
Ted lui adressa un regard furtif. Eddie le trouva froid, voire glacial, jusqu'au moment où l'homme esquissa un sourire. Et alors, tout son visage s'illumina. Et il avait laissé tomber ce tour de passe-passe flippant avec ses yeux, et c'était un gros progrès.
« Il est fou !» répondit Ted. « Complètement cinglé. Il a un petit vélo dans la tête. Il fait même des cascades avec. Je ne vous l'avais pas dit ?»
Et sans attendre la réponse d'Eddie,
« Oui, c'est très agréable ici. Qu'on l'appelle Devartois, la grande prison ou Algul Siento, c'est un vrai bijou. »
Plutôt classe comme décor, acquiesça Dinky.
Même Stanley jetait sur la petite communauté baignée par le soleil un vague regard d'envie.
C'est la nourriture qui est exceptionnelle, continua Ted. Et le programme change deux fois par semaine au cinéma Le Bijou. Et si on ne veut pas aller au cinéma, on peut rapporter des films chez soi avec les DVD.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Demanda Eddie, puis il secoua la tête.
« Peu importe, continuez. »
Ted haussa les épaules comme pour dire
« Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?»«
Le sexe absolument céleste pour commencer, » intervint Dinky. « C'est de la simulation, mais ça reste incroyable. Je l'ai fait avec Marilyn Monroe, Madonna et Nicole Kidman, le tout dans la même semaine. »
Il énumérait les noms avec une sorte de fierté un peu gênée.
J'aurais pu les prendre toutes en même temps si j'avais voulu. La seule chose à laquelle on voit qu'elles ne sont pas réelles, c'est quand on leur souffle directement dessus, de près. La partie sur laquelle on souffle, elle disparaît en quelque sorte. C'est un peu dérangeant.
Alcool? Drogue? Demanda Eddie.
Alcool en quantité limitée, répondit Ted. Si vous êtes féru d'œnologie, par exemple, vous aurez accès à de vraies perles à chaque repas.
Qu'est-ce que c'est l'œnologie? Demanda Jake.
La science du snobisme aviné, trésor, répondit Susanna. Si vous arrivez au paradis bleu accro à quelque chose, ajouta Dinky, ils vous font décrocher, gentiment. Les deux ou trois types qui ont joué les durs à cuire dans ce domaine.
Son regard croisa brièvement celui de Ted. Le vieil homme haussa les épaules et fit oui de la tête.
Ces gars-là, ils ont disparu.
En réalité, les ignobles n'ont pas besoin de nouveaux briseurs, dit Ted. Ils en ont largement assez ici pour terminer le travail.
Combien? Demanda Roland.
« Environ 300, » fit Dinky.
« 307, pour être exact, » le corrigea Ted. « Nous sommes cantonnés dans 5 dortoirs, même si l'image qu'évoque ce mot n'est pas réaliste. Nous avons nos propres appartements et autant, ou aussi peu, de contact avec nos semblables briseurs que nous le souhaitons. »«
Et vous savez ce que vous faites ?» demanda Susanna.
« Oui. » Même si la plupart ne passent pas beaucoup de temps à y réfléchir.
Je ne comprends pas pourquoi ils ne se mutinent pas.
C'est quoi votre camp, dame?
Lui demanda Dinky.
Mon...
Puis comprenant la question.
1964. Il soupira en secouant la tête. « Alors vous n'avez pas entendu parler de Jim Jones et du Temple du Peuple. Ça s'explique plus facilement quand on est au courant de ça. Presque 1 000 000 de personnes se sont suicidées dans ce complexe religieux qu'un gars Jésus de San Francisco avait fondé à Guyana. Ils ont bu du jus de fruits empoisonné dans un baquet pendant que lui les regardait depuis le perron de sa maison, en leur braillant des histoires sur sa mère au porte-voix. » Susanna le fixait avec une expression incrédule et horrifiée, et Ted avec une impatience mal camouflée. Il devait pourtant trouver là-dedans quelque chose d'important, car il ne dit mot. « Presque 1 000 », répéta Dinky, parce qu'ils étaient perdus et seuls, et qu'ils croyaient que Jim Jones était leur ami. Parce que, vous pigez, ils n'avaient nulle part où retourner. Et c'est comme ça aussi, ici. Si les briseurs s'unissaient, ils pourraient créer un marteau mental qui enverrait Boulet, Prentice et la Fouine et les Taïnes et les Cantois à l'autre bout de la galaxie. Au lieu de ça, il n'y a que moi, Stanley, et le grand chouchou des briseurs. J'ai nommé l'extraordinaire et incontournable Théodore Brautigan de Milford, dans le Connecticut. Diplômé de Harvard en 1920, club atelier, atelier débat d'idées, rédacteur de l'Écarlate et, bien sûr, grand merdeux des Bétaphies.
Pouvons-nous nous fier à vous trois ? S'enquit Roland. Dans sa bouche, cette question paraissait à tort vaine, presque glissée pour meubler la conversation.
Il le faudra bien, suggéra Ted. « Vous n'avez personne d'autre, et nous non plus. »
« Si on était de leur côté, » fit remarquer Dinky, « vous ne pensez pas qu'on aurait autre chose à se mettre aux pieds que des mocassins faits main avec des foutus pneus en caoutchouc ? Au paradis bleu, on obtient tout ce qu'on veut, sauf quelques trucs de base. Des trucs qu'on ne voit pas forcément comme indispensables, mais qui... Eh bien... Disons qu'il est plus difficile de décamper quand on n'a rien d'autre que des pantoufles al gulciento. On va dire ça comme ça.
J'ai toujours du mal à le croire, dit Jake. Tous ces gens qui travaillent à briser les rayons, je veux dire, je ne veux pas vous enfoncer, mais...
Dinky lui tomba dessus, les poings serrés, un sourire crispé et furieux sur le visage. Othé s'interposa immédiatement, avec un grondement de gorge rauque, les babines retroussées. Ou bien Dinky ne le vit pas, ou bien il n'y prêta aucune attention.
« Ah ouais? Tu sais quoi, gamin? Ben, ça m'offense. Je suis offensé comme un enculé. Comment tu pourrais savoir ce que ça fait, toi, de passer sa vie à l'extérieur de tout, d'être toujours la risée de tout le monde, d'être éternellement carie à ce foutu bal de fin d'année ?»«
Et qui ?» demanda Eddie, mais Dinky était sur sa lancée et ne lui prêta pas la moindre attention.
« Là, en bas, il y a des types qui ne peuvent ni marcher ni parler. Une nana sans bras, plusieurs hydrocéphales, ce qui veut dire que leur foutu crâne va jusqu'au New Jersey. »
Il tendait les mains de part et d'autre de sa tête, à 50 cm au moins de chaque côté, ce que tous virent comme exagéré. Plus tard, il devait découvrir que tel n'était pas le cas.
« Et ce pauvre vieux Stanley, il fait partie de ceux qui ne peuvent pas parler. »
Roland jeta un regard en direction du jeune homme, avec son visage blafard et mal rasé, et sa tignasse noire et bouclée. Et le pistolero eut presque un sourire.
« Moi, je crois qu'il sait parler. »
Puis s'adressant directement à l'intéressé,
« Portes-tu le nom de ton père, Stanley ? » ?»« Je crois que oui. »
Stanley baissa la tête et le rouge lui monta aux joues. Pourtant, il souriait. Et en même temps, il se remit à pleurer.
« Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, bon sang ?»
se demanda Eddie. Ted se le demandait visiblement lui aussi.
« Side de Shane, je me demande si je pourrais vous poser une que... »«
Non, non. J'implore votre pardon. » l'interrompit Roland. Pour l'instant, votre temps est compté. Vous nous l'avez dit et nous le sentons tous. Les briseurs savent-ils comment on les nourrit? Ce qu'on leur donne à manger pour accroître leur pouvoir?
Ted s'assit subitement sur un rocher et se mit à contempler la toile d'araignée argentée des rails en contrebas.
C'est lié aux enfants qu'ils amènent à la gare, n'est-ce pas?
Oui.
Ils ne le savent pas, et je ne le sais pas,
affirma Ted de la même voix pesante.
Pas vraiment. On nous donne des dizaines de cachets par jour. On en reçoit matin, midi et soir. Certains sont des vitamines, d'autres ont pour but évident de nous maintenir dans un état de docilité. J'ai eu de la chance, j'ai pu purger mon organisme sans séquelles, et celui de Dinky, et celui de Stanley. Seulement, pour que cette purge fonctionne, pistolero, il faut le vouloir, vous comprenez?
Roland opina de la tête.
Longtemps, je me suis dit qu'il devait aussi nous donner une sorte de... je ne sais pas, de stimulant cérébral. Mais avec toutes ces pilules, impossible de dire desquelles il s'agit. Celles qui font de nous des cannibales, ou des vampires, ou les deux.
Il marqua une pause, observant le rayon de soleil invraisemblable. Il tendit les mains sur le côté. Dinky prit l'une, Stanley l'autre.
Regardez ça, conseilla Dinky. Ça vaut le détour.
Ted ferma les yeux. Les deux autres l'imitèrent. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien d'autre à regarder que trois hommes surplombant le désert obscur, fixant le rayon de soleil à la Cecil B. 2000. Car ils le regardaient bel et bien, Roland le savait. Même les yeux fermés. Le rayon clignota, et pendant l'espace d'une dizaine de secondes, le Devartois se trouva plongé dans les ténèbres ambiantes, ainsi que la gare de Tonnefoudre et les pentes de Stecktet. Puis cette absurde lueur dorée réapparut. Dinky émit un soupir rauque, mais pas mécontent, et recula, se détachant de Ted. Un instant plus tard, Ted lâcha la main de Stanley et se tourna vers Roland.
« C'est vous qui avez fait ça ?»
demanda le pistolero.
« À nous trois, oui, » répondit Ted. « Mais c'est surtout Stanley. Il est extrêmement puissant comme émissaire. Une des rares choses qui terrifie Prentice et les ignobles et les taïnes, c'est de perdre leur lumière artificielle. Ce qui arrive de plus en plus souvent, vous savez, et pas seulement parce que nous bidouillons le système. » Le système est simplement en train...
Il haussa les épaules.
En train de lâcher.
Comme tout le reste, fit remarquer Eddie.
Ted se tourna vers lui, le visage grave.
Mais pas assez vite, monsieur Dean. Ce bricolage avec les deux derniers rayons doit cesser et vite, sinon il n'y aura plus rien à faire. « Dinky, Stanley et moi, nous vous aiderons si nous le pouvons, même si cela signifie tuer tous les autres. »«
Pour sûr, »
fit Dinky avec un sourire vide.
« Si le révérend Jim Jones a su le faire, pourquoi pas nous ?»
Ted lui adressa un regard réprobateur, puis se tourna de nouveau vers le cathète de Roland.
« Il ne sera peut-être pas nécessaire d'en arriver là, mais si c'est le cas... »
Il se leva brusquement et saisit le bras de Roland.
« Sommes-nous des cannibales ? »
demanda-t-il d'une voix coupante, presque stridente.
« Avons-nous mangé ces enfants que les Cap-Vertes ramènent des terres frontalières ?»
Roland demeura silencieux. Ted se tourna vers Eddie.
« Je veux savoir... »
Eddie ne répondit pas, lui non plus.
« Madame Shai ?»
tenta Ted, en s'adressant à la femme en appui sur la hanche du jeune homme.
« Nous sommes disposés à vous aider. Ne m'aiderez-vous donc pas en me disant ce que je demande ?»«
Le savoir changera-t-il quoi que ce soit ?»
demanda Susanna. Ted la fixa pendant quelques secondes, puis se tourna vers Jake.
Tu pourrais vraiment être le jumeau de mon jeune ami. Tu le sais, fiston ?»«
Non, mais ça me surprend pas. C'est comme ça que ça marche par ici. Tout... concorde. » »«
Alors, me diras-tu ce que je veux savoir ?» Bobby le ferait, lui.
Pour que tu puisses te bouffer de remords, pensa Jake. Te bouffer toi-même au lieu de les bouffer eux.
Il secoua la tête.
Je ne suis pas Bobby. Que je lui ressemble tellement n'y change rien.
Ted soupira et hocha la tête.
Vous faites corps tous ensemble et je ne vois pas comment il en serait autrement. Vous êtes qu'à tête, après tout.
« Faut qu'on y aille, »
fit Dink à Ted.
« On est déjà resté trop longtemps ici. Le problème, c'est pas seulement d'être là à temps pour l'appel. Moi et Stanley, faut encore qu'on gâchaille leur putain de télémètre pour que quand ils viendront vérifier, Prentice et Lafouine, ils disent « Teddy Bay était présent tout le long. » Et Dinky Earnshaw aussi, et Stanley Ruiz, aucun problème avec ces gars-là. »
« Oui, » acquiesça Ted. « J'imagine que tu as raison. Encore 5 minutes. »
Dinky hocha la tête à contre-cœur. Le vent leur apporta le son d'une sirène affaiblie par la distance, et le jeune homme eut un sourire sincère de stupéfaction qui découvrit ses dents.
« Ça les contrarie tellement quand il entre un peu de lumière, quand ils doivent faire face à ce qui les entoure vraiment. » À cette version pourrie de l'hiver nucléaire. »
Ted mit les mains dans ses poches pendant un moment, regardant ses pieds, avant de lever les yeux vers Roland.
« Il est temps que cesse toute cette comédie grotesque. Nous reviendrons tous les trois demain, si tout se passe bien. En attendant, il y a une grotte plus spacieuse, environ 30 mètres plus bas, sur l'autre versant, de l'autre côté de la gare de Tonfoudre et d'Algulciento. Vous y trouverez de la nourriture, des sacs de couchage et un réchaud marchant au propane, ainsi qu'une carte très sommaire de l'Algul. Je vous ai aussi laissé un magnétophone et un certain nombre de cassettes. Elles ne vous expliqueront sans doute pas tout ce que vous voudrez savoir, mais elles combleront néanmoins quelques blancs. Pour l'instant, contentez-vous de me croire si je vous dis qu'Algulciento n'est pas aussi charmant qu'il en a l'air. Ces tours, recouvertes de lierre, sont des miradors. Il y a 3 séries de clôtures entourant les lieux, et si on essaie de sortir, la première série vous envoie un avertissement.
Comme des barbelés.
Précisa Dink.
La deuxième vous fiche une torgnole à vous envoyer dans les vapes, poursuivit Ted. Et la troisième.
Je crois qu'on a compris l'idée,
l'interrompit Susanna.
Et les enfants de Roderick?
Demanda Roland.
Ils ont quelque chose à voir avec le Devar, car nous en avons rencontré un en chemin qui nous l'a dit.
Susanna jeta un regard en direction d'Eddie, en haussant les sourcils. Eddie lui répondit par un regard qui signifiait
« Je te raconterai plus tard ».
C'était là un instant de communication limpide et sans parole, le genre d'instants qui sont une évidence pour ceux qui s'aiment.
« Ces espèces de branleurs, »
fit Dinky, non sans une pointe de compassion.
« Ce sont des... Comment on les appelle déjà dans les vieux films? Bref, ils ont un traitement de faveur, quoi. Ils vivent dans un petit village à environ 3 kilomètres de la gare, dans cette direction. »
Il l'indiqua du doigt.
Ils font des petits travaux d'entretien à l'Algul, et il doit y en avoir 3 ou 4 assez habiles pour réparer les toitures, changer des bardeaux, ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il y a comme polluant dans l'air par ici, mais ces pauvres schnocks y sont particulièrement sensibles. Sauf que sur eux, ça ressemble au mal des radiations, pas seulement des furoncles ou de l'eczéma.
« M'en parle pas !» fit Eddie en se remémorant ce pauvre vieux Chevin de Shaven, son visage rongé par les plaies et sa toge toute détrempée d'urine.
« Ce sont des Falken vagabonds. »
intervint Ted. « Des bédouins. Je crois qu'ils suivent les rails de chemin de fer pour la plupart. Il y a des catacombes sous la gare et sous Algul Siento. Les Rhodes s'y retrouvent bien là-dessous. Il y a des tonnes de nourriture et deux fois par semaine, ils en rapportent au Dévar sur des traîneaux. On ne mange quasiment plus que ça, d'ailleurs. C'est bon, mais... »
Il haussa les épaules. « Tout est en train de se casser la figure et ça va vite, »
fit Dinky sur un ton inhabituellement lugubre.
« Mais comme vous l'avez dit, le monsieur, le vin est sans sas. »
« Si je vous demandais d'amener un des enfants de Roderick avec vous demain, »
intervint soudain Roland,
« vous pourriez le faire ?»
Ted et Dinky échangèrent un regard alarmé. Puis ils se tournèrent tous deux vers Stanley. Stanley hocha la tête, haussa les épaules et tendit les mains ouvertes devant lui, comme pour dire « Pourquoi faire, pistolero ?» Pendant quelques secondes, Roland resta perdu dans ses pensées. Puis il se tourna vers Ted.
« Amenez-en un à qui il reste au moins un demi-cerveau, » lui recommanda Roland. « Dites-lui, Dan Sur, Dan Tur, Dan Roland, Dan Gilead. Répétez pour voir. »
Ted le répéta sans une seconde d'hésitation. Roland hocha la tête.
S'il hésite encore, dites-lui que Chevin de Shaiven a dit qu'il devait vous suivre. Il parle un langage simple, n'est-ce pas?
Pour sûr, fit Dinky. Mais, monsieur, vous ne pourrez pas laisser un Rod venir ici, vous voir de ses yeux et ensuite le relâcher. Ils ont la bouche cousue au milieu mais qui fuit des deux côtés.
« Amenez-moi un, » se contenta de répéter Roland, « et nous verrons bien. J'ai ce que mon Kamaï Eddy appelle une intuition. Vous intuitez la pensée intuition ?»
Ted et Dinky opinèrent.
« Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, soyez certain que le gars que vous amènerez ne racontera à personne ce qu'il aura vu ici. »«
Vous le tueriez si votre intuition ne paie pas ?»
demanda Ted. Roland hocha la tête. Ted eut un petit rire amer.
« Bien sûr que vous le tueriez. » Ça me rappelle ce passage dans Huckleberry Finn où Huck aperçoit un bateau à vapeur explosé. Il court annoncer la nouvelle à Miss Watson et à la veuve Douglas, et quand l'une d'elles lui demande s'il y a des morts, Huck répond sans se démonter le moins du monde « Non, madame, rien qu'un nègre. » Dans ce cas précis, on pourra dire « rien qu'un Rod ». Le pistolero avait une intuition, mais ça n'a pas tourné comme il voulait.
Roland lui adressa un sourire froid, qui dévoila largement ses dents, ce qui ne lui ressemblait pas. Eddie l'avait déjà vu faire et se réjouissait qu'il ne lui fût pas adressé à lui.
« J'ai cru que vous aviez mesuré les enjeux, sighed Ted. Me serais-je trompé ?»
Ted soutint son regard pendant quelques instants, puis baissa les yeux vers le sol. Ses lèvres marmonnèrent un message inaudible. Pendant ce temps, Dink semblait engagé dans une palabre silencieuse avec Stanley.
« Si vous voulez un Rod, » finit-il par dire, « on vous en trouvera un. Ça n'est pas un problème. Le problème, ce sera plutôt de réussir à venir ici tout court. Si on n'y arrive pas... »
Roland attendit patiemment que le jeune homme achève sa phrase. Lorsqu'il la laissa en suspens, le pistolero demanda clairement
« Si vous n'y arrivez pas, que voulez-vous que nous fassions ?»
Ted haussa les épaules. Une réplique parfaite du mouvement de Dinky, au point d'en être comique.
« De votre mieux. » Il y a également des armes dans la grotte, une douzaine de ces boules électriques qu'ils appellent vifs d'argent, un certain nombre de mitraillettes aussi, j'ai entendu les ignobles les appeler des fusils à rafale. Ce sont des AR-15 de l'armée américaine, et il y a d'autres armes dont je ne suis pas très sûr.
Il y a un genre de sabre laser de science-fiction, comme dans les films,
expliqua Dinky. Je pense que c'est censé désintégrer les trucs, mais ou bien je suis trop demeuré pour l'allumer, ou bien la batterie est morte. »
Il se tourna vers l'homme à cheveux blancs avec un air anxieux.
« Ça fait 5 minutes, et même plus. Il faut qu'on se mette un œuf dans la chaussure et qu'on frappe la route, Dexter. En voiture. »«
Oui. Eh bien, nous serons de retour demain. Peut-être que d'ici là, vous aurez trouvé un plan. »«
Parce que vous, vous n'en avez pas ?» demanda Eddie, surpris.
« Mon plan à moi, c'était la fuite, jeune homme, ce qui paraissait une idée brillante sur le coup. J'ai réussi à remonter jusqu'au printemps 1960. Ils m'ont rattrapé et ils m'ont ramené avec l'aide de la mère de mon jeune ami Bobby. Et maintenant, il faut vraiment que nous... »«
Encore 1 minute, si cela vous sied, » fit Roland en s'approchant de Stanley.
L'homme baissa les yeux vers ses pieds, mais ses joues mal rasées prirent de nouveau de bonnes couleurs, et...
« Il tremble, » remarqua Susanna. « Comme un animal dans les bois qui croise un être humain pour la première fois. »
Stanley devait avoir dans les 35 ans, mais il pouvait être plus vieux. Son visage avait cet aspect lisse et désinvolte que Susanna associait à certaines lacunes mentales. Ted et Dinky avaient tous deux des boutons, mais pas Stanley. Roland posa la main sur l'avant-bras de l'homme et lui adressa un regard direct. Les yeux du pistolero ne rencontrèrent d'abord qu'une masse de boucles sombres. Dinky reprit la parole. Ted le fit taire d'un geste.
« Ne me regarderas-tu pas dans les yeux ?» demanda Roland.
Il s'exprimait avec une douceur que Susanna avait rarement entendue dans sa bouche.
« Ne me regarderas-tu pas dans les yeux, avant de partir, Stanley, fils de Stanley ?»« Chémie qui fut ?»
Susanna sentit sa mâchoire inférieure s'ouvrir en grand. À ses côtés, Eddie poussa un grognement, comme s'il venait de prendre un coup de poing dans l'estomac.
« Mais Roland est vieux. » Tellement vieux. Ce qui veut dire que si cet homme est le garçon d'auberge qu'il a connu à Méris, celui avec son âne et sa sombrera rose, alors lui aussi doit avoir...
L'homme releva lentement la tête. Des larmes roulaient à gros flots sur ses joues.
« Ce bon vieux Will Diborn, » dit-il.
Il avait la voix rauque. Et elle montait et descendait comme si ses cordes vocales n'avaient pas servi depuis longtemps.
« Je vous demande grand pardon, Sai. Si vous deviez sortir votre arme et m'abattre, je le comprendrais. Je le comprendrais très bien. »«
Pourquoi parles-tu ainsi, Chimie ?»
demanda Roland de cette même voix douce. Les larmes de Stanley se mirent à dévaler plus vite.
Vous m'avez sauvé la vie. Arthur et Richard aussi, mais c'était surtout vous, ce bon vieux Will Dearborn, qui était en réalité Roland de Gilead. Et moi, je l'ai laissé mourir. Elle que vous aimiez et que j'aimais moi aussi.
Le visage de l'homme se tordit de douleur, et il essaya de se dégager de Roland, mais le pistolero le retint.
« Rien de tout ça n'était ta faute, Chimie. »«
J'aurais dû mourir pour elle !»
s'écria-t-il.
« C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Je suis un imbécile, un idiot, comme il disait !»
Il se donna une claque au beau milieu de la figure, dans un sens puis dans l'autre, s'imprimant sur les joues des traces rouges vifs. Avant qu'il remette ça, Roland lui attrapa la main et le força à la baisser le long du corps.
« C'est Réa qui a fait tout le mal, » lui dit Roland.
Stanley, qui avait été Chimie une éternité plus tôt, scruta le visage de Roland, cherchant à percer son regard.
« Si fait, » poursuivit Roland, hochant la tête. « C'était la cosse, et moi aussi. J'aurais dû rester avec elle. S'il y a dans cette histoire quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, « Chimie, Stanley,
c'est bien toi.
C'est ainsi que vous dites, pistolero? Vrai de vrai?
Roland opina de la tête.
Nous en palabrerons autant qu'il te plaira si nous avons le temps. Et nous évoquerons le bon vieux temps, mais pas maintenant. Pas le temps pour l'instant. Tu dois repartir avec tes amis et moi rester avec les miens. Chimy le fixa pendant encore quelques instants. Eh oui, Susanna revit en lui le garçon qui s'affairait dans la taverne. Il y avait bien, bien long. Une taverne à l'enseigne du repos des voyageurs, où il ramassait les chopes de bière vide, puis les lâchait dans le tonneau à vaisselle près de l'élan à deux têtes, connu sous le nom de Guéluron. Essayant d'éviter les gifles éventuelles de Coraline Thorin et les coups de pied encore plus méchants que lui envoyait parfois cette catin vieillissante du nom de Petit le Trottin. Elle revoyait le garçon qui avait failli se faire tuer pour avoir renversé de l'alcool sur les bottes d'un dur appelé Roy des Papes. C'est Cuthbert qui avait fait échapper Chimie à la mort ce soir-là. Mais c'est Roland, connu des habitants de la ville sous le nom de Will Dearborn, qui les avait tous sauvés. Chimy plaça les bras autour du cou de Roland et le serra contre lui. Roland sourit et caressa la chevelure bouclée de sa main droite estropiée. Un sanglot tonitruant comme un coup de klaxon s'échappa de la gorge de Chimy. Susanna vit des larmes perler au coin des yeux du pistolero. Si fait,
dit Roland à voix si basse qu'elle en était presque inaudible.
J'ai toujours su que tu étais spécial. Berthe et Alain aussi le pensaient. Et voilà que l'on se retrouve, quelle heureuse rencontre que la nôtre, plus loin sur le sentier. Quelle heureuse rencontre que la nôtre, Chimy, fils de Stanley. Bien heureuse, en effet. Bien heureuse.